Au moment où je commence à rédiger ce message, le nombre de morts officiels du Covid-19 dans le monde est de 183 470. En France, ce nombre est de 21 340. Au moment où je m'apprête à enregistrer ce message, le nombre de morts officiels du Covid-19 dans le monde est passé à 197 924. En France, ce nombre est passé à 22 245. Depuis de nombreuses semaines, la mort ou les morts entraînées par le coronavirus font la une de nos journaux. Et la question qui passe en moi et qui repasse est celle-ci. Était-il prêt à mourir ? Était-il prêt non seulement à quitter cette terre, cette vie, mais surtout à rencontrer Dieu, leur Créateur, celui qui leur a donné la vie et qui l'a reprise ? J'aimerais ce matin, vous l'avez compris, parler de la mort et surtout de la nécessité de s'y préparer. Et j'ai intitulé ce message « Être prêt à mourir ». La mort est une réalité incontournable de la vie, de notre vie. Nous naissons, nous vivons, puis nous mourons. C'est ainsi, c'est assuré, c'est obligatoire, c'est inévitable, c'est inéluctable. La Bible le dit d'ailleurs très souvent et de différentes manières. Ainsi, nous lisons dès le début du livre de la Genèse que l'homme est poussière et qu'il retourne à la poussière. David, au psaume 139, écrit que Dieu détermine le nombre de nos jours. « Quand je n'étais qu'une masse informe, dit-il, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui étaient fixés. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, quant à lui, écrit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Oui, quoi que nous pensions, disions ou fassions, nous sommes mortels. Nous avons un commencement et une fin. C'est une réalité incontournable. Pourtant, aussi incontournable soit-elle, cette réalité n'est pas forcément toujours acceptée. Elle reste encore aujourd'hui souvent un sujet tabou. Et même quand elle ne l'est pas, elle fait peur, quoi qu'en disent certains. Dali, le peintre surréaliste qui semblait au-dessus de toutes les conventions et que rien ne semblait impressionner, disait un jour dans un article de France Soir en 1979 « Le seul problème qui non seulement me préoccupe mais qui m'effraie, c'est l'idée de la mort. » Nous pourrions citer ici beaucoup de propos de ce type. L'être humain a fait énormément de progrès ces dernières décennies, plus que pendant tout le reste de son histoire. Que de découvertes et d'avancées toutes plus incroyables les unes que les autres. Que de progrès techniques, technologiques, scientifiques et médicaux. On a marché sur la Lune, on le fera bientôt sur Mars. On opère des embryons dans le ventre de leur mère, on imprime des prothèses et toutes sortes d'autres choses avec une imprimante 3D, on a cartographié le génome humain, on greffe des visages, et j'en passe. Que de progrès, que de barrières franchies, que de limites repoussées. Et pourtant, une limite persiste même si elle est aussi repoussée, c'est celle de la mort. L'homme maîtrise beaucoup de choses, mais pas la mort. En fait, la mort est indomptable pour l'homme, c'est ce que la Bible affirme. Indomptable car elle est la conséquence, le jugement du rejet de Dieu. Indomptable car elle sera le dernier ennemi que Dieu détruira un jour. Devant cette réalité de la mort indomptable, sans doute de tout temps, mais sans doute aujourd'hui plus que jamais, l'être humain est devenu maître dans l'art d'esquiver l'idée de la mort. Voici rapidement quelques exemples. Certains, par exemple, cherchent à ignorer la mort, à faire comme si elle n'existait pas, à vivre comme si elle n'était pas au bout du chemin. Ces personnes ne vont jamais aux enterrements, refuse d'entrer dans un cimetière ou de voir une dépouille. L'idée même de la mort leur est insupportable et elle est repoussée le plus loin possible. L'actualité de ces dernières semaines doit rendre cela très difficile. D'autres vont chercher à déplacer la mort autant que faire se peut. Autrefois, la mort faisait beaucoup plus qu'aujourd'hui partie de la vie. D'ailleurs, on mourait généralement à la maison. Aujourd'hui, bien souvent, et pour toutes sortes de raisons, pas forcément mauvaises, on meurt généralement à l'hôpital ou en maison de santé ou en maison de retraite. Bien sûr, il y a une nécessité économique derrière cette réalité. Mais c'est aussi parfois, pour certains, une façon de se défausser. On se débarrasse d'une certaine manière de la mort en l'éloignant de nous et en la confiant à des professionnels. D'autres encore cherchent à apprivoiser la mort. Ainsi, on se fait peur avec la mort, on joue avec la mort, on se divertit avec la mort. Films d'horreur, fêtes d'Halloween, séries sanguinolentes, massacres à la tronçonneuse et de toutes les manières possibles et imaginables, vampires, zombies et autres morts-vivants ont envahi nos écrans et notre quotidien. Cette peur que la mort suscite est ainsi comme exorcisée, anesthésiée, apprivoisée par ces caricatures grotesques de la mort qui nous sont proposées. D'autres encore essayent de repousser la mort en camouflant les marques du temps qui passe. On fait bien plus que s'entretenir, on modèle son corps, on use et on abuse de la chirurgie esthétique, on se badigeonne le corps de toutes sortes d'onguents qui nous font gagner quelques années en apparence. Mais derrière la peau, le corps vieillit néanmoins. Toutes les crèmes régénératrices de jour ou de nuit aux liposomes actifs ou autres molécules miracles ne sauraient nous empêcher de vraiment vieillir et d'un jour mourir. Parmi toutes les attitudes et comportements d'esquive possibles face à la mort, je citerai encore pour terminer celles et ceux qui noient l'idée de la mort dans les plaisirs et les divertissements de la vie. Ils sont à l'image de ces personnes que l'apôtre Paul décrit dans sa première lettre aux Corinthiens quand il cite le proverbe « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Ainsi, les plaisirs de la vie dans lesquels on se perd nous font oublier qu'il faut un jour mourir. Après ce panorama rapide, non exhaustif et un peu caricatural, j'en conviens, sur la façon dont l'être humain gère la mort et l'idée de la mort, après avoir vu que la mort est une réalité à la une réalité incontournable, une réalité indomptable, une réalité à esquiver pour beaucoup, j'aimerais considérer maintenant que la mort est une réalité à laquelle il faut se préparer. Et cela pour deux raisons. D'un point de vue général et de bon sens aussi, car c'est une folie que de vivre en faisant abstraction de quelque chose d'aussi incontournable et impactant que la mort. D'un point de vue biblique, car Dieu qui donne la vie et la reprend nous dit qu'après la mort vient le jugement, où il demandera des comptes à chaque homme et chaque femme ayant vécu sur cette terre. Ce qui nous ramène à la question du départ. Devant tous ces décès dus au Covid-19, était-il prêt à mourir? Était-il prêt à rencontrer Dieu? Était-il encore sous la condamnation de leurs péchés? Ou alors au bénéfice de la grâce de Dieu, justifié par le moyen de la foi en Jésus-Christ? Et puis nous pouvons ajouter cette question pour nous-mêmes. Suis-je prêt? Êtes-vous prêt? J'aimerais maintenant décliner rapidement quelques raisons qui montrent l'importance et la sagesse de se préparer pour ce rendez-vous incontournable et final de notre vie terrestre et de le faire sans attendre demain. La mort est une réalité à laquelle il faut se préparer, premièrement, car nous sommes mortels. Nous l'avons déjà évoqué, mais je le rappelle ici, car c'est la base de notre réflexion. Oui, en tant qu'être humain, nous sommes mortels, éphémères, corruptibles, périssables. Que nous le voulions ou pas, que l'idée nous enchante ou pas, nous devrons tous, un jour, franchir la sombre vallée. C'est incontournable. Nous avons tous un commencement et une fin. Et un jour, la fin viendra, car nous sommes mortels et tous les grands rendez-vous se préparent. La mort est une réalité à laquelle il faut se préparer, deuxièmement, et sans attendre demain, car notre vie est brève. Si la vie peut paraître longue aux jeunes enfants désireux de grandir, nous constatons tous avec les années qui passent combien elle est courte et combien le temps passe vite. Et si nous pensions à un certain moment de notre vie que nous avions le temps, toute notre vie devant nous, comme on le dit parfois aux plus jeunes, nous réalisons bien vite au fil des années qui passent que toute une vie, que toute la durée d'une vie est en réalité bien peu de choses. Écoutons ce que dit le psalmiste au psaume 90, versets 3 à 6, puis versets 9 et 10. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, êtres humains, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe. On la coupe le soir et elle se dessèche. Nous achevons nos années comme un murmure. La durée de nos jours s'élève à 70 ans, pour les plus vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est qu'oppression et mal, car cela passe vite et nous nous envolons. Moïse, peut-être au soir de sa vie, quand il écrit ces lignes, constate combien la vie est fragile et courte, si vite passée, si vite emportée, si vite envolée. Même les années des plus vigoureux, 80 ans à l'époque, dit-il, passent vite et s'envolent. Oui, nous l'avons tous entendu dire par un aîné, peut-être même l'avons-nous dit nous-mêmes, ça passe vite, la vie passe vite. Oui, la vie humaine, notre vie est caractérisée par l'éphémère et le fragile. Et pour le souligner avec force, le psalmiste va faire trois comparaisons qui disent, chacune à sa manière, le caractère éphémère et fragile de la vie. En parlant des jours d'une vie, Moïse dit tout d'abord « tu les emportes ». Des mots qui font penser à un torrent qui emporte loin ce qui tombe à la surface de ses eaux. « Tu les emportes » souligne à sa manière le caractère inéluctable de la mort, seule certitude ou presque de la vie. Et puis il ajoute « ils sont comme un instant de sommeil ». Qu'est-ce qu'un instant de sommeil ? Celui qui dort n'a pas conscience du temps qui passe. Il s'endort et il se réveille l'instant d'après. Ainsi en est-il de la vie humaine qui passe comme un instant de sommeil. Et puis enfin, cette vie humaine, ces jours de l'homme, sont comme la fleur qui le matin fleurit, mais qui le soir est déjà sèche. Une vie éphémère qui ne dure pas. Notons bien que c'est à de l'herbe que nous sommes comparés, et non pas à un chêne robuste et majestueux. L'image est parlante, elle est saisissante de réalisme. Oui, la vie de l'homme est bien fragile, bien courte, elle est fugace, petite, rapide, éphémère, passagère, temporaire. Le temps nous est compté. C'est pourquoi il nous faut nous préparer sans attendre. La mort est une réalité à laquelle il faut se préparer sans attendre, troisièmement, car la mort ne prévient pas. pas de feuille de route reçue à la naissance, pas toujours de signes avant-coureurs, pas de lettres recommandées avec accusé de réception précisant le jour et l'heure. Non, personne ne sait vraiment quand le moment de sa mort viendra. Personne ne peut avoir la certitude qu'il se réveillera demain. Personne ne peut avec certitude dire qu'il a le temps de s'en préoccuper demain. Puisqu'il n'est donc pas possible de prévoir sa mort, sauf à la précipiter soi-même, il est sage et important de s'y préparer quand nous le pouvons, c'est-à-dire au présent, aujourd'hui. La mort est une réalité à laquelle il faut se préparer aujourd'hui, quatrièmement, car la venue de la mort n'est pas toujours logique. Ainsi, parfois, celui à la santé chancelante toute sa vie vivra vieux, alors que celui qui était toujours en bonne santé ne fera finalement pas de vieux os. Ainsi, celui qui a toujours fait attention à son alimentation et à son hygiène de vie n'a aucune garantie de vivre vieux. De même, celui qui a toujours été dans les excès toute sa vie n'est pas toujours condamné à mourir jeune. Ainsi, certaines vies jeunes, pleines de promesses, sont stoppées net dans la force de l'âge. Non, il n'y a pas de logique systématique devant la venue de la mort. C'est pourquoi il est important et sage de s'y préparer sans remettre au lendemain. Enfin, la mort est une réalité à laquelle il faut se préparer sans tarder, cinquièmement, car après c'est trop tard. C'est avant qu'il faut se préparer. Le texte d'Hébreux, déjà cité, dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Pas de deuxième chance, donc. Pas de réincarnation, pas de purgatoire. Après la mort, vient le jugement, vient la rencontre avec le Créateur. Plusieurs paraboles de Jésus nous enseignent cette réalité qu'après, c'est trop tard. C'est en particulier le cas de celle de l'homme riche et du pauvre nommé Lazare, qui se trouve dans Luc chapitre 16. Une parabole qui souligne que la vie sans Dieu conduit à la mort et à l'éternité sans Dieu. C'est donc de notre vivant que nous décidons de notre sort éternel. Ne pas le faire est une folie, car après c'est trop tard. C'est comme l'histoire de ce roi qui avait à sa cour un bouffon qui faisait ses délices. Un jour qu'il avait ri plus encore que de coutume, il lui donna un sceptre magnifique garni de pierres précieuses. « Tiens, lui dit-il, si tu trouves quelqu'un de plus fou que toi, tu le lui donneras. Sinon, il est à toi. » Les années passèrent sans que le bouffon ne trouve plus fou que lui. Puis un jour, le roi tomba malade. Et bientôt, les médecins déclarèrent qu'il allait mourir. Le bouffon chercha alors à égayer, divertir son roi. Mais le roi ne riait plus. Et plus il plaisantait, plus son visage s'assombrissait. « Laisse-moi en paix, » finit-il par lui dire. « Ne sais-tu pas que je vais mourir ?»« Mais justement, sire, c'est le moment de vous distraire. »« Tais-toi, » dit le roi. « La mort est là, et je ne sais pas où je vais. »« Comment, sire, vous ne savez pas ?» Vous pouviez mourir chaque jour et vous ne vous en êtes pas inquiété ? Ah, je vois bien que vous êtes plus fou que moi. Tenez, je vous rends votre sceptre. Oui, en effet, c'est une folie de ne pas se préparer. Remettre à demain son sort éternel est la plus grande des folies, car demain ne nous appartient pas. Car après, c'est trop tard. Face à la réalité tragique de la mort que nous avons largement abordée ce matin, la Bible nous offre des paroles pleines d'espérance. c'est l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire l'espérance de notre victoire sur notre mort. Une victoire qui nous est acquise en vertu de la résurrection de Jésus, de sa victoire sur la mort. Oui, parce que Jésus a vaincu la mort, nous savons que cela est possible. Et Jésus a non seulement vaincu la mort, mais il nous offre sa victoire. Souvenons-nous des paroles de Jésus au moment de la mort de Lazare. Jésus lui dit à Marie, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Parce que Jésus est la résurrection et la vie, celui qui croit en lui vivra au-delà de la mort. Jésus, par sa résurrection, nous offre sa victoire, nous offre la vie éternelle. Ainsi, comme le dit Paul aux Corinthiens au chapitre 15, verset 20, « Jésus est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. » Voilà l'espérance du chrétien, l'espérance attachée à l'œuvre de salut accomplie en Jésus. Mais ce n'est pas tout. Jésus n'a pas seulement vaincu la mort, il ne nous a pas seulement offert sa victoire, mais il a vaincu la mort à tout jamais. Il l'a déjà fait à la croix, même si nous attendons encore son retour pour la réalisation complète de cette victoire. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que la mort sera le dernier ennemi vaincu et détruit par Dieu. Oui, quand Jésus reviendra et mettra un point final à l'histoire des hommes, quand s'accomplira enfin et pleinement tout ce qui a été acquis par Jésus à la croix, quand les premières choses auront disparu et que Dieu fera toutes choses nouvelles, quand le diable et les siens auront été jetés dans l'étang de feu, quand le jugement dernier aura eu lieu, alors Dieu jettera aussi la mort et le séjour des morts dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Oui, la mort qui est le dernier ennemi de Dieu, comme le dit Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 26, sera alors détruite à tout jamais. Voilà notre espérance. Pour l'heure, nous attendons, nous patientons, nous espérons. Pour l'heure, Christ règne, mais de manière encore partielle. Je cite encore l'apôtre Paul qui, en parlant de Jésus, dit ceci, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Et le dernier ennemi sera la mort. Quelle espérance glorieuse! Non seulement l'espérance de notre propre résurrection, si nous sommes en Christ, mais aussi l'espérance de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera, où la mort ne sera plus, car les premières choses auront disparu, car Christ aura mis tous ses ennemis sous ses pieds. Chers amis, je termine en revenant à la question du départ. Était-il prêt à rencontrer Dieu, toutes celles et ceux qui sont morts récemment du Covid-19. Pour eux, malheureusement, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais pour nous qui sommes encore vivants, il est encore temps. Temps de choisir de mettre notre vie en règle devant Dieu si ce n'est pas déjà fait. Temps de choisir de lui confier notre vie, non seulement pour cette vie maintenant, mais pour celle qui dure éternellement. Temps de choisir de mettre notre foi en celui qui est la résurrection et la vie et qui nous offre la vie éternelle. Et si nous sommes déjà enfants de Dieu, soyons dans la joie, la reconnaissance et la louange, car nous sommes prêts. Quel que soit le jour où le Seigneur nous appellera à le rejoindre. En attendant, continuons à mettre notre vie à son service. En attendant, continuons à être des témoins du ressuscité, là où Dieu nous a placés, afin que beaucoup encore se donnent à Dieu et soient prêts à le rencontrer.